Parking Nomade, Marie-Andrée Lamontagne, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission qui fait de la littérature son centre de gravité et de plaisir. Aujourd'hui, au programme, je vous propose un déplacement dans le temps et dans l'espace. Déplacement dans l'espace, nous nous rendrons à Rimouski, plus exactement sur une petite île en face de Rimouski, dans le fleuve, l'île de Saint-Barnabé. Déplacement dans le temps, il sera double. À travers l'auteur, nous serons dans la première moitié du 19e siècle et à travers l'action du roman, car il s'agit d'un roman, nous serons au 18e siècle. À ce moment-là, entre 1728 et 1767, vit sur l'île de Saint-Barnabé un ermite appelé Toussaint Cartier. Le personnage est historiquement attesté, mais un siècle plus tard, l'abbé Louis-Édouard Blois, un érudit local, en fera avec beaucoup de liberté le sujet d'un roman intitulé « Toussaint Cartier ou l'ermite de Saint-Barnabé ». Ce roman était resté inédit jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il paraît édité, présenté et annoté par l'écrivain et professeur Claude Lacharité. Il paraît aux presses de l'Université Laval et nous avons le grand plaisir de l'accueillir à ce micro. Claude Lacharité, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Andrée Lamontagne.
Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Parking Nomade. Donc, d'abord, je vous présente brièvement en rappelant que nous vous avons accueilli à ce micro à quelques reprises, notamment au sujet de Toussaint Cartier, ce même Toussaint Cartier, quand vous avez fait paraître L'œil de l'ermite. C'est une œuvre de fiction sur le personnage, décidément inspirant. Vous êtes professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire, création et patrimoine imprimé, et j'ajoute que vous êtes aussi un spécialiste de Rabelais, donc vous allez allègrement de la Renaissance au 19e siècle canadien-français avec érudition et plaisir de la connaissance. Alors, première question toute simple, pourquoi éditer ce roman aujourd'hui? Ce texte n'est pas seulement une curiosité littéraire, n'est-ce pas?
En effet, c'était jusqu'à la parution de mon livre en 2023, L'œil de l'ermite, la plus longue fiction consacrée à Toussaint Cartier. Et comme ce curieux personnage a une dimension littéraire dont on ne peut pas faire abstraction, il me semblait très important de remettre ce texte en circulation, voire de le mettre en circulation tout simplement, puisque comme vous l'avez souligné, c'est un texte qui est resté manuscrit dans les archives de Louis-Édouard Blois depuis 1867.
Ouais. L'abbé Blois est, écrivez-vous dans la présentation, un antiquaire, au sens qu'a le mot au 19e siècle, c'est-à-dire un collectionneur. Sa collection est hors norme, ajoutez-vous. Pourquoi?
Ben, en fait, comme à l'époque, il n'existe pas encore d'archives nationales, pas plus que de bibliothèques nationales, les érudits comme Louis-Édouard Blois sont un peu obligés de constituer leur propre collection de références. Et c'est quelqu'un qui, très tôt, va développer cette passion de la collection grâce à des documents que son oncle Boissonneau va lui donner à Saint-Jean-Port-Joli. Et à partir de là, il va collectionner d'une manière un peu compulsive. Il aime beaucoup les documents rares, précieux, uniques. Il aime beaucoup aussi les livres. Et en fait, en son temps, c'est l'homme qui a probablement la plus grande collection de livres et de documents de tout le Canada français. C'est tellement vrai qu'il y a même des gens de l'étranger qui viennent jusqu'à Masquinongé où il habite pour consulter cette collection de références. C'est le cas, par exemple, de l'historien américain Francis Parkman qui va se déplacer deux fois pour aller voir cette fameuse grotte de l'antiquaire, pour utiliser l'expression de James Macpherson Lemoine qui connaissait bien Louis-Édouard Blois et qui connaissait aussi très bien sa riche collection.
Ouais. Vous donnez un chiffre, 5000 titres. Tout cela était conservé au presbytère?
Oui, absolument. Tout ça était conservé au presbytère. Et bien sûr, comme l'ecclésiastique n'a pas eu de descendant direct, à sa mort, il va tout léguer au séminaire de Nicolet. Et sa collection est toujours conservée dans le centre d'archives régional séminaire de Nicolet aujourd'hui.
Oui, qui a été légèrement collection qui a été légèrement élaguée, hein, ou légèrement, en tout cas, élaguée. Vous le mentionnez à un moment donné.
Oui, absolument. Il y a un certain nombre de livres, malheureusement, qui ont dû être élagués parce que le centre d'archives a déménagé au début du 21e siècle dans des espaces qui étaient beaucoup plus limités que ceux dont le centre disposait auparavant.
Ouais, tristesse des bibliothèques dont l'avenir est souvent incertain. L'abbé Blois a publié plusieurs ouvrages de son vivant. Sait-on pourquoi ce roman ne fut pas publié?
C'est un curieux personnage, Louis-Édouard Bois. En général, lorsqu'il publie, il choisit l'anonymat ou il opte pour des pseudonymes. Donc, même ce qu'il a publié de son vivant, il ne le publie jamais sous son nom. Et je dirais que l'essentiel de ce qu'il a écrit, il l'a conservé de façon, disons, manuscrite dans son fonds d'archives. C'est quelqu'un qui, manifestement, avait un très grand plaisir à écrire, mais sans doute beaucoup de réserve à diffuser ce qu'il publiait, ce qu'il écrivait. Et ça vaut, bien sûr, pour ce roman, ça vaut peut-être encore plus pour ce roman, dans la mesure où c'est un curé de paroisse et qu'évidemment, il y a une sorte de soupçon qui plane à l'époque hein, sur la fiction littéraire. On juge les fictions littéraires extrêmement immorales et scandaleuses, alors c'est encore plus difficile pour un ecclésiastique d'assumer la paternité d'un texte romanesque. En fait, il va très peu publier de son vivant, il va publier, cela dit, un roman, mais là encore, sous un pseudonyme, c'est le coffret ou le trésor enfoui qu'il fait paraître en 1872 sous le nom de Félix Poutré. J'ai l'impression que c'est un texte qu'il avait écrit surtout pour une diffusion restreinte auprès de gens dont il était proche et notamment du clergé de Rimouski, puisque le roman est écrit en 1867 à un moment qui est quand même un tournant pour l'histoire de Rimouski qui devient le siège d'un nouveau diocèse la même année en 1867. Et j'ai l'impression que tout manuscrit qu'il soit, le roman a quand même pu circuler auprès, par exemple, du premier évêque de Rimouski, Jean Langevin, de même qu'auprès de son frère, le vicaire général Edmond Langevin.
Et légitimer, en quelque sorte, là, peut-être contribuer, en tout cas, à légitimer Rimouski comme siège de l'évêché. L'abbé Blois, écrivez-vous, entend faire de la fiction une autre voie d'accès au savoir, d'où le terme érudit-fiction que vous avez utilisé à son sujet, à la suite d'autres critiques, d'ailleurs, au sujet notamment de Pascal Quignard, vous le mentionnez. Une autre voie d'accès au savoir, dites-vous. Le savoir et l'érudit-fiction, est-ce toujours le même savoir que celui des savants?
Ben, je pense que oui. En fait, très souvent, lorsqu'on a une démarche d'érudit, on est obligé de formuler des hypothèses. Hein, et ces hypothèses sont plus ou moins vraisemblables et on essaie de les étayer à partir d'arguments. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le travail de l'érudition ressemble beaucoup au travail de la fiction. Hein, puisque dans la fiction, on travaille bien sûr sur des hypothèses qu'on cherche à rendre vraisemblables d'une certaine façon. Donc, il y a des parallèles nombreux et multiples qu'on peut faire. La seule différence, je dirais, c'est que quand on fait de la fiction, mais en général, on n'a pas de documents sur lesquels s'appuyer pour, comment dirais-je, étayer notre démonstration. On part en quelque sorte d'une prémisse qui est inventée et ensuite on ajoute autour de cette prémisse un certain nombre de détails pour donner de la chair autour de l'os et rendre évidemment le récit vraisemblable.
Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à penser que l'érudit-fiction, parce que le terme est assez fascinant, serait une réponse spontanée, saine même, pourrait-on dire, de l'esprit humain devant, par exemple, le recul de la transmission de la culture, d'une culture générale?
Oui, je pense que, en tout cas, c'est une voie intéressante qui montre que la littérature, ça n'est pas simplement de l'invention ou de l'imagination gratuite. C'est aussi une démarche de connaissance. Hein. Ça s'applique dans nos vies personnelles, intimes, mais c'est vrai aussi pour éclairer des objets du passé comme l'ermite Toussaint-Cartier. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ermite Toussaint-Cartier a fait l'objet d'innombrables érudits-fictions, pas seulement de la part de l'abbé Bois, mais à peu près toutes celles et tous ceux qui ont écrit à son sujet ont été obligés de recourir à la fiction tout en utilisant un certain nombre de points d'ancrage qui donnent une certaine vraisemblance au récit que l'on invente.
En somme, c'est un personnage romanesque. Dans son roman, l'abbé Blois fait de Toussaint Cartier le petit-fils de l'explorateur malouin Jacques Cartier. Et on sait que c'est un personnage important de l'historiographie canadienne-française, qui en fait le découvreur du Canada. Mais il s'appuie aussi en partie sur une tradition locale. Des vieux s'en souvenaient à ce titre. Dans les faits, son père était un homonyme. Hein, c'était un Jacques Cartier. Mais pourquoi, d'où vient ce désir de temps long, tant chez les vieux qui pouvaient prêter foi à la légende que chez l'abbé Blois?
Oui, en fait, c'est une bonne question que vous posez là, mais je pense qu'en réalité, ça dévoile assez bien le fonctionnement de la tradition orale et de l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'on utilise des faits qui sont historiquement attestés. Donc, par exemple, le personnage de Toussaint Cartier avait un père qui s'appelait bel et bien Jacques Cartier, mais ça n'était évidemment pas le célèbre navigateur malouin. Et je pense qu'au 19e siècle, lorsque Charles Lepage, qui est un des personnages importants dans, je dirais, la transmission de la mémoire de l'ermite, qui est donc un personnage de conteur qui meurt très vieux à l'âge de 92 ans, il est un peu obligé de captiver son auditoire en donnant, je dirais, des éléments qui vont intéresser les gens à qui il s'intéresse. Et donc, s'il parle d'un personnage parfaitement inconnu qui s'appelle Jacques Cartier, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si en revanche, on fait un lien entre l'ermite Toussaint Cartier et le célèbre navigateur malouin Jacques Cartier, ben, tout de suite, ça donne une sorte de dimension plus grande que nature au solitaire, à l'ermite, hein, et ça permet en quelque sorte je dirais, magnifier sa mémoire et d'en faire en réalité un personnage de légende beaucoup plus que le personnage historique que Charles Lepage a connu en chair et en os.
Claude Lacharité, dans votre présentation du roman de l'abbé Blois, Toussaint Cartier ou l'ermite de Saint-Barnabé, vous expliquez que Toussaint Cartier a trois mérites aux yeux de l'auteur. Un, il a vécu sous le régime français. Deux, il est né en France, en Bretagne. Et trois, il montre une foi catholique exigeante. Y a-t-il un dessein moral dans le roman de l'abbé Blois?
Oui, ben je pense que l'abbé Blois s'inscrit parfaitement dans l'idéologie de son temps, qui est promue notamment par l'école patriotique de Québec, hein. Il s'agit en quelque sorte de magnifier l'identité nationale canadienne-française. Et dans cette identité, à l'époque, il y a deux grands piliers, la langue française d'un côté, le catholicisme de l'autre. Et évidemment, Toussaint Cartier, de ce point de vue-là, est un personnage presque idéal, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, hein, il est animé par une foi exceptionnelle aux yeux de l'abbé Blois. Et par ailleurs, c'est un Français né donc en France à une époque que l'on tend à idéaliser beaucoup au 19e siècle. Hein. Cette France de l'Ancien Régime, c'est comme une sorte de paradis perdu. Et c'est surtout une époque de foi héroïque aux yeux de l'abbé Blois, par exemple, mais aussi de Joseph-Charles Taché, qui a sensiblement la même interprétation du personnage de Toussaint Cartier à la même époque.
Oui, c'est au contact de Philippe Aubert de Gaspé Père, hein, vous le mentionnez, que donc l'auteur des Anciens Canadiens, que l'abbé Blois se prend passion pour l'histoire, indissociable de l'histoire de l'Église catholique à ses yeux, écrivez-vous. Est-ce pour cette raison qu'il y a de nombreuses digressions dans le roman sur l'œuvre pastorale, par exemple, des prêtres et des évêques?
Oui, je pense qu'effectivement, l'abbé Blois a tendance en quelque sorte à se projeter dans la figure de l'ermite et en même temps, il en profite pour magnifier la fonction sociale, l'utilité des ecclésiastiques. Il insiste beaucoup sur le fait que lorsque la seigneurie de Rimouski s'est peu à peu construite, hein, que les paysans se sont mis à défricher la terre, tout ça s'est fait avec l'aide des missionnaires, des religieux, et il insiste sur le fait que très souvent les ecclésiastiques sont d'une aide précieuse dans ce travail de colonisation. Et on sait par un certain nombre de témoignages de fidèles d'une paroisse qu'il a desservie en Beauce qu'effectivement, l'abbé Blois se préoccupait beaucoup de questions de culture de la terre, d'agriculture, de défrichage, etc. Et donc, c'est clair qu'au fond, d'une certaine façon, lorsqu'il parle de l'époque pionnière de Rimouski, il parle aussi un peu de son propre rôle de pasteur, même si c'est pas à la même époque, ni tout à fait au même endroit.
Tout ça se télescope dans le roman. Dans son roman, l'abbé Blois multiplie les notes de bas de page, donc les siennes. Votre édition est aussi bien documentée, c'est une de ses qualités, il y en a plusieurs. Mais l'abbé Blois lui explique les noms autochtones donnés au lieu de l'action. Cette mise en valeur de la toponymie autochtone est-elle à mettre à son crédit? Est-ce, ou alors par souci du pittoresque?
Je pense en effet que l'abbé Bois avait une curiosité particulière pour la toponymie autochtone et que ça n'est pas du tout quelque chose qui était répandu à son époque. Alors évidemment, l'abbé Bois reste un catholique bien convaincu hein, que les autochtones doivent nécessairement se convertir au catholicisme s'ils veulent espérer faire leur salut. Mais à côté de cela, il a, je pense, une opinion très très favorable de la culture autochtone et en particulier des noms de lieux. Hein. Il va publier un article de son vivant dans lequel il invite à préserver autant que possible tous les noms de lieux, bien sûr les toponymes autochtones, mais aussi les toponymes francophones qui, dans certains cas, sont en train d'être supplantés depuis la conquête. Hein. Et pour lui, en fait, si on renonce à, je dirais, cette histoire des noms de lieux dans la longue durée, ben on renonce à une certaine richesse culturelle. Et c'est vrai que dans le roman, très souvent, quand il en a l'occasion, il va relever que tel lieu portait tel nom anciennement chez les Autochtones. Et à ma connaissance, dans de nombreux cas, il n'y a que l'abbé Bois qui a conservé trace de ces anciennes appellations autochtones. Donc ça montre à quel point finalement les choses ne sont jamais simples hein, et que tout ecclésiastique qu'il est, il a quand même, je dirais, un regard extrêmement favorable à l'égard des cultures autochtones, en tout cas du moins lorsqu'il est question de toponymie. Il a rédigé un immense dictionnaire des noms propres qu'il a, là encore, conservé seulement en manuscrit, mais qu'on peut consulter aujourd'hui dans son fonds d'archives. Et c'est vraiment une somme assez colossale, assez vertigineuse. Il n'y a pas d'équivalent à la même époque.
L'abbé Bois fait de Toussaint-Cartier, celui de son roman, là, un moine en règle, c'est l'expression qu'il utilise, sans l'habit, sans les vœux, mais avec la même foi et la même rigueur qu'un père trappiste. Pourquoi un laïc ermite, ce n'était pas assez?
Oui, c'est une bonne question. J'ai l'impression que là, en fait, l'abbé Bois va jusqu'au bout de son raisonnement. Il force peut-être un peu le paradoxe en imaginant qu'effectivement, c'est un laïc, mais en même temps, un laïc qui mène la vie d'un moine en règle. Je pense que l'idée, c'est en quelque sorte de donner une représentation qui soit acceptable aux yeux du catholicisme de son temps, de cette figure très singulière de solitaire. Hein. Pendant très longtemps, l'Église voyait d'un très mauvais œil les moines qui décidaient, en fait, ou plutôt les laïcs qui décidaient de se faire ermite sans avoir l'autorisation d'un supérieur ou d'un évêque. En fait, on a un exemple très clair d'un pape, Benoît XIV, qui est contemporain de Toussaint-Cartier, qui invite à excommunier sans ménagement hein, les laïcs qui décident de se faire ermite sans appartenir à un ordre religieux et sans avoir une autorisation expresse de l'évêque de leur diocèse.
Donc, oui, mais quelle est l'expression? Il utilise une expression savoureuse, il est question d'une abeille là, qui oui. La ruche sans sa reine ou quelque chose de semblable, rappelez-nous.
Exactement, les ermites laïques sont comme des abeilles sans reine, selon Benoît XIV. Oui. Donc, pour essayer, en quelque sorte, de redorer un peu le blason de ce parcours singulier, j'ai l'impression qu'au fond, l'abbé Bois s'attache à montrer que oui, bien sûr, c'était un laïc, mais il était tellement irréprochable à tout point de vue qu'au fond, on ne peut pas le soupçonner d'être une sorte d'abeille sans reine, pour reprendre l'expression de Benoît XIV. Et l'idée, c'est surtout de le donner en exemple, je pense, aux fidèles rimousquois de la fin du 19e siècle. Hein. Donc, si on insiste trop sur le côté un peu irrégulier, singulier, bizarre du personnage, en fait, on risque de passer à côté de l'objectif hein, qui est de proposer une sorte de vie exemplaire de cet ermite.
Un modèle. Est-ce qu'on pourrait en imaginer ou penser qu'il serait comme un solitaire du Nouveau Monde, solitaire au sens de Port-Royal, par exemple?
Oui, effectivement, ça a été, je dirais, une tentation d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur Toussaint-Cartier, parce que quelques années auparavant, à Trois-Pistoles, on a justement un bénédictin qui décide de quitter sa communauté en France pour s'établir au Nouveau Monde sous un autre nom, donc il s'appelait Don Georges-François Poulet, et il vit en ermite à Trois-Pistoles sous le nom de Monsieur Dupont, parce que, en fait, il a refusé d'abjurer le jansénisme. Donc là, on est, je dirais, dans une pratique solitaire qui est effectivement très, très proche de celle des solitaires de Port-Royal, mais évidemment, un Port-Royal délocalisé de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf que dans le cas de Dupont-Poulet, hein, comme j'aime l'appeler, par un raccourci peut-être un peu facile, les choses vont mal se terminer parce qu'il va être, en quelque sorte, rattrapé par les autorités de son propre ordre religieux et par également l'évêché de Québec et l'évêque de Québec qui vont le contraindre à reprendre son habit religieux et par ailleurs vont le contraindre à renoncer à la vie solitaire de sorte qu'il va devoir s'enfuir de la Nouvelle-France pour s'établir plutôt en Hollande dans une communauté qu'on appelle l'Église vieille catholique, qui est en réalité une église qui est très portée par, je dirais, cette spiritualité janséniste du XVIIe siècle, mais qui existe encore et toujours au XVIIIe siècle, même si elle est réprimée.
Tour de la Charité, vous avez édité et présenté le roman de l'abbé Bois, Toussaint Cartier ou l'ermite de Saint-Barnabé. Et contrairement à l'abbé Casgrain, autre abbé érudit du 19e siècle canadien-français qui est allé en France à plusieurs reprises, l'abbé Bois n'a pas voyagé hors du bas du fleuve et de la Beauce, hein, où il a eu une cure à Beauceville. Est-ce une lacune? Est-ce des slabs dans son roman dont une partie se passe en Bretagne? Il faut le
Oui, alors, il compense par ses lectures nombreuses et variées, hein, et donc dès qu'il a l'occasion, en quelque sorte, de reprendre un détail qu'il a lu dans tel ou tel ouvrage sur la Bretagne, il va évidemment en profiter pour enrichir sa fiction. Mais oui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont clairement anachroniques lorsqu'il essaie de reconstituer la vie de Toussaint Cartier avant l'arrivée à Rimouski. Par exemple, il imagine que les voyages vers le Nouveau Monde sont très très rares, hein, et donc le jeune héros est obligé de négocier longuement avec des armateurs pour trouver un bateau qui accepte, qui s'embarque pour faire la traversée. Alors là, évidemment, on est dans un détail complètement anachronique. À Saint-Malo, à l'époque, il y a de très nombreux navires qui sont armés pour la pêche à la morue dans les bancs de Terre-Neuve ou encore sur la côte de Gaspé. Il y avait, autrement dit, rien de plus facile que de traverser l'Atlantique à l'époque, hein. Évidemment, il fallait bien sûr payer sa traversée, mais c'était, je dirais, presque aussi courant que de prendre l'avion à notre époque. Donc là, il y a quand même quelque chose qui témoigne d'une sorte de méconnaissance, mais on peut se dire, après tout, si l'abbé avait voyagé en France au 19e siècle, ça ne lui aurait peut-être pas permis davantage de savoir quelle était la réalité au 18e siècle, à l'époque de l'ermite Toussaint-Cartier.
Le Toussaint Cartier de l'histoire ne sait lire ni écrire. Le Toussaint Cartier du roman est un lettré qui a de la vertu, dit l'abbé. Il a la vertu notamment de se soucier, je cite, fort peu de remuer des histoires et des systèmes philosophiques. Là, je passe sur un passage. Occupation exclusive, malheureusement, de bien des têtes à cette époque. Ça, c'est à la page 171. Donc, lire ne suffit pas. Le personnage, s'il est lettré, il doit bien lire, hein. Et donc, il faut moraliser les lectures. L'abbé Bethléem en France, puis la revue Mes fiches de Fidesz, là, ne sont pas loin. Cette visée morale assignée à la lecture est-elle plus forte en pays catholique, croyez-vous?
Oui, je pense que c'est plus fort, et c'est plus fort dans le cas précis de l'ermite, dans la mesure où, encore une fois, il faut construire une figure exemplaire. Donc, de présenter l'ermite comme étant parfaitement analphabète, ce serait un peu problématique dans la mesure où, pour qu'il puisse exercer une sorte d'autorité morale, il faut qu'il soit quand même un peu connaisseur, alors qu'il soit un peu frotté de théologie, ou en tout cas qu'il connaisse bien, je dirais, la tradition catholique, de manière à ce qu'il n'induise pas en erreur ses contemporains. Ça, je pense que c'est un premier élément. Puis, dans le passage que vous avez cité, évidemment, il y a une dénonciation très claire des idées pernicieuses aux yeux de l'abbé Bois, des Lumières, hein, de la libre pensée, qui évidemment est constamment perçue au 19e siècle comme étant une tradition très opposée à l'Église, très opposée à la foi, etc. Donc l'idée, c'est de montrer, oui, que c'est un homme du 18e siècle, mais qu'il n'a pas les défauts de son temps. Ça n'est pas du tout un encyclopédiste. Il n'est pas nourri par les idées de Voltaire, Diderot, Rousseau et compagnie. C'est quelqu'un qui, au contraire, hein, a plutôt, je dirais, des valeurs qui lui sont dictées, inspirées par le catholicisme traditionnel.
Oui. Et de toute façon, si on revient aux faits, en 1867, Rimouski et Rivière-du-Loup se disputent le siège de l'évêché. Alors, on imagine que la présence d'un ermite édifiant plaidait en faveur de Rimouski.
Absolument, je pense que c'est une des hypothèses qu'on peut avancer, hein, parce qu'au fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'abbé Bois décide d'écrire ce roman précisément en 1867. Bon, ça peut être simplement par le plus grand des hasards, parce qu'il a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure, mais je pense que dans la manière qu'ont les écrivains au 19e siècle d'envisager le rapport au temps, il y a toujours une logique de commémoration. C'est extrêmement important. Et donc, comme l'ermite est mort en 1767, ça devient intéressant d'écrire à son sujet 100 ans plus tard, en 1867, et justement, 100 ans plus tard, c'est le moment où se décide la création d'un nouveau diocèse. Et comme vous le dites très justement, il y a effectivement, je dirais, deux options possibles, Rivière-du-Loup, Rimouski. D'ailleurs, il y a deux églises qui se ressemblent comme des copies conformes, hein, la cathédrale à Rimouski et l'église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, précisément parce qu'il fallait des églises d'envergure pour pouvoir accueillir le siège d'un nouvel évêché. Et il est clair que de part et d'autre, on a dû utiliser tous les arguments à la disposition des gens qui militaient pour une candidature et pour l'autre. Et dans le cas de Rimouski, bien évidemment, le fait d'avoir un homme qui s'est consacré à la prière, qui a cherché en quelque sorte à s'amender par une forme d'ascèse, ça pouvait être un argument intéressant. Et effectivement, ça peut certainement avoir été un des arguments qui a fait pencher la balance en faveur de Rimouski.
Oui, Claude Lacharité, le temps file. Dernière question et vous aurez 30 secondes pour y répondre. Toussaint-Cartier à Rimouski est aujourd'hui une marque de bière, hein, vous le dites, le nom d'un bar discothèque. On est loin de l'idéal ascétique. Il a donné son nom à une rue. Il a inspiré le roman Les Grandes Marées de Jacques Poulain et d'autres romanciers, dont l'anglaise Frances Brooke, qui lui prête un chagrin d'amour à l'origine de son désir de fuir le monde. La fortune mémorielle de Toussaint-Cartier échappe à l'homme historique. Vous avez une explication?
Ben justement, je pense que c'est une énigme insoluble. Et en réalité, la seule façon de comprendre le destin qui a été celui de Toussaint-Cartier, c'est le recours à la fiction. Donc, c'est un personnage qui nous interpelle et qui nous invite en quelque sorte à proposer notre propre récit des raisons qui nous amèneraient à faire comme lui, c'est-à-dire à vivre seul pendant presque 40 ans sur une île déserte.
Claude Lacharité, je vous remercie. Je crois que les auditeurs auront compris toute la richesse à la fois du personnage, mais aussi de cette édition que vous proposez. Alors, je rappelle le titre du roman de l'abbé Louis-Édouard Bois que vous avez édité, présenté et annoté, avec d'autres documents d'ailleurs qui aident à comprendre l'époque. Toussaint-Cartier ou l'ermite de Saint-Barnabé, et c'est publié en 2025 aux presses de l'Université Laval pour la première fois depuis sa rédaction en 1867. C'est un travail d'édition. Édition tout à fait instructif et passionnant, avec sérieux, sans lourdeur, alors tout à fait éclairant pour l'époque. Et manifestement, vous avez pris beaucoup de plaisir à fréquenter l'ermite. Merci. Alors, Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio VM, à la régie Daniel Fortin, au microphone Marie-Andrée Lamontagne. Excellente suite de programme à l'antenne de Radio VM. À la prochaine.